Avec Atenio, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tout lu et vous allez nous raconter les journaux du jour. Vous commencez votre tour d'horizon de la presse par une histoire de trésor que vous avez dénichée dans Ouest France, hein, seulement. Vous ne l'avez pas trouvé vraiment.
Peut-être savez-vous que c'est en 1942-1943, au moment où l'Europe vivait des heures sombres, que Hergé a lancé Tintin sur la piste du trésor de Rackham-le-Rouge. Allez savoir pourquoi, c'est à cela que j'ai pensé en lisant sur le site de Ouest France l'histoire du galion espagnol San José coulé au large de la Colombie en 1708 et qui contiendrait le trésor le plus précieux de l'histoire. On parle de 20 milliards d'euros en pièces d'or, diamants et porcelaine que le navire acheminait du Pérou vers la cour du roi d'Espagne quand il fut coulé par les Anglais dans la mer des Caraïbes. L'épave a été retrouvée en 2015. D'après des vidéos sous-marines tournées en 2022, le trésor serait intact.
Incroyable que les Anglais n'aient pas eu l'idée d'aller vider le navire. Justement, une expédition pour remonter cette fortune à la surface est programmée pour le mois d'avril.
Sauf que, bien sûr, l'affaire n'est pas si simple. D'abord parce que la propriété du galion est revendiquée non pas par les Anglais, mais par la Colombie et aussi par l'Espagne, puisqu'après tout, le bateau était espagnol. Ensuite, parce que les chasseurs de trésors du monde entier lorgnent sur ce butin fantastique, si bien que les autorités colombiennes cachent le lieu où l'épave est échouée. Et puis, techniquement, il faut envoyer un robot capable de descendre par 600 mètres de fond. Coût de l'opération, 4,5 millions de dollars. Le président colombien a juré de récupérer le trésor avant la fin de son mandat, qui est pour 2026. C'est donc une course de fond et une course contre la montre.
En une de Libération, une longue enquête sur les Horaces, ce groupe d'intellectuels et de hauts fonctionnaires qui conseillent Marine Le Pen.
On passe des fonds marins aux sous-marins de la politique. Libération parle du cabinet noir de Marine Le Pen, les Horaces, un très secret club d'influence essentiellement composé d'hommes et qui alimente depuis 2015 la présidente du RN en notes, rapports, tribunes et propositions de loi. Libération dit avoir eu accès à des centaines d'échanges, notes et discussions entre les membres du groupe, auxquels se joignent des participants réguliers ou éphémères à l'entreprise de normalisation du parti, écrit Libération, qui a recensé 80 noms, parmi lesquels des colonels, des anciens membres de cabinets ministériels de droite, magistrats, avocats, banquiers, journalistes. Aucun n'est vraiment très connu, je dois vous le dire, mais ils n'ont pas envie de le devenir. La plupart ont refusé de répondre au journal.
Et Libération mentionne dans ce papier quelques exemples des sujets qu'abordent entre eux ces conseillers de l'ombre.
Les Horaces, ce sont les auteurs d'un plan Le Pen pour les banlieues en 2018, aux accents ultra-sécuritaires, écrit Libération, et aussi d'un livre noir du coronavirus au relent complotiste en 2020. En 2020 toujours, une note prédisait la faillite imminente de plusieurs grandes banques européennes et préconisait de remplacer les dirigeants de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et de la Banque publique d'investissement par des experts comptables, tout simplement. L'article cite aussi un texte sur l'Algérie qui recommande à Marine Le Pen d'affirmer haut et fort le refus de nous laisser envahir. Lors d'un séminaire secret en 2021, la présidente du Rassemblement National aurait envisagé de rétablir l'ISF. Les Horaces l'en ont dissuadé. Chez les électeurs du RN, personne ne paiera jamais l'ISF, plaisante l'un d'eux. Les seuls sont dans cette pièce. On comprend qu'ils tiennent à leur anonymat.
Édouard Philippe, lui, veut se faire entendre. Il donne une interview décapante à l'Opinion, avec une critique explicite d'Emmanuel Macron.
Oui, Édouard Philippe, lui aussi, remonte à la surface. Donc, et puisqu'on parle de sous-marin, disons qu'il lâche une torpille. En 2017, le président de la République disait beaucoup, et j'étais d'accord, que quitte à dépenser, il fallait réformer massivement. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne réforme pas grand-chose. Pan, un trou dans la coque. Édouard Philippe ajoute que lui a fait une réforme importante de la SNCF qui a permis d'avoir des comptes en ordre et que son passage à Matignon, rappelez-vous, a été marqué par une maîtrise historique de la dépense publique. Peut-on gagner une élection avec un tel discours ? Lui demande l'Opinion. Réponse d'Édouard Philippe. On peut gagner une élection en disant la vérité, y compris quand elle est difficile à entendre. C'est une chose que les Français savent reconnaître. Ça se discute.
Dans le Figaro, une révélation intrigante de l'entourage d'Alexis Navalny, l'opposant russe, était peut-être sur le point d'être libéré la veille de sa mort.
Cette fois, on passe des fonds marins aux eaux troubles de la politique et de l'espionnage, selon le Figaro et Courrier International, qui cite Maria Pevchik, une collaboratrice directe de Navalny. Des tractations étaient en cours avec le Kremlin pour échanger sa libération et celle d'un agent russe détenu en Allemagne, avec la remise en liberté de deux Américains emprisonnés en Russie, dont peut-être un journaliste du Wall Street Journal qui est accusé d'espionnage depuis l'an dernier. Un plan d'échange aurait été soumis à Poutine lui-même par l'oligarque Roman Abramovitch au début de ce mois. La mort de Navalny, toujours inexpliquée, serait donc intervenue alors que l'opération entrait dans sa phase finale.
Tout cela au conditionnel, mais qui rejoindrait les propos sur cette antenne de l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman, qui était notre invitée hier et qui disait que les autorités russes avaient été un peu surprises de la mort de Navalny et que peut-être elle n'y serait pas immédiatement pour grand-chose. Je dis bien immédiatement et directement pour grand-chose. Pour terminer, on sort des eaux troubles et on revient sur Terre avec l'industrie automobile et le lancement de la nouvelle Renault 5, star du jour dans la presse.
Oui, elle montre ses formes arrondies et son carénage épatant, jaune fluo comme un feutre stabilo, en première page du Parisien, qui la qualifie de va-tout de Renault, et puis aussi de la Tribune, qui parle d'atout maître du constructeur français pour concurrencer les voitures chinoises. La R5 New Look s'affiche aussi en une de la Provence et du Républicain Lorrain, après son lancement à grand spectacle hier sur une musique des Daft Punk.
C'est pas mal, hein? Instant Crush de Daft Punk.
Exactement, c'est sur cette musique qu'a donc été lancée la nouvelle R5. On ne sait pas encore si le décollage de la voiture sera réussi, mais il le sera forcément plus que celui des taxis volants attendus à Paris pour les Jeux Olympiques. La mauvaise nouvelle est à lire dans les Échos ce matin. L'appareil, une sorte de mini-hélicoptère construit par une firme allemande qui nous faisait rêver, devait transporter ses premiers passagers au mois de juin. En fait, il devrait pouvoir voler au-dessus de la capitale, mais interdiction de prendre des passagers. Il n'aura pas toutes les certifications requises dans les délais, écrivent les Échos, qui précisent la liste de ces certifications requises. C'est à vous donner le vertige. Du courteline en version aérienne, on n'est plus au fond des mers, mais franchement, ça ne vole pas très haut.
Je pensais qu'on était les champions de la suppression des normes ces temps-ci en France. Ce ne sera pas pour les hélicos électriques, donc.
C'est annoncé, mais ça n'est pas encore en vigueur.
Hervé Gattegno pour la revue de presse chaque jour à 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Hervé.
À demain.
Dans un instant, nos esprits libres. Anne de Guigné du Figaro et Christophe Barbier, éditorialiste, écrivain et dramaturge. Radio Classique, il est 8h38.